Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Après 5 jours de révolte sociale violemment réprimée au Chili, le président Sebastián Piñera reconnaît qu'il n'a pas su entendre la colère légitime des Chiliens.
Ah oui, le changement de discours est radical pour le milliardaire et chef d'État de droite dont les manifestants réclament depuis presque une semaine déjà la démission pure et simple. Le week-end dernier, encore, nous rappelle El País, Sebastián Piñera diabolisait ces manifestants qui, selon lui, ne respectent rien ni personne et sont prêts à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite. Il déclarait que le Chili est en guerre contre un ennemi implacable, envoyait l'armée contre les cortèges et décrétait l'état d'urgence et le couvre-feu. C'est un tout autre homme qui est apparu hier soir à la télévision publique et la presse chilienne commente largement cette prestation. Ce matin, pour la radio Cooperativa, Piñera a surtout voulu paraître à l'écoute des préoccupations sociales des Chiliens, allant même jusqu'à demander pardon pour y être resté sourd jusque-là.
Nos fuimos capaces de reconocer esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Et oui, Sebastián Piñera demande pardon à ses compatriotes de ne pas avoir vu pendant des années ces inégalités et ces abus criants qui ont poussé, dit-il, des millions de Chiliens à exprimer leur colère spontanée et authentique. Nous avons écouté la voix du peuple qui a exprimé pacifiquement ses problèmes et son aspiration à une vie meilleure, a même déclaré un peu plus tard le président, clairement donc radouci.
Il aura donc fallu 5 jours et 15 morts, Camille, pour que Sebastián Piñera reconnaisse la légitimité de cette révolte et tente d'y répondre.
Oui, la réponse, elle tient dans un nouvel agenda social détaillé par le quotidien La Nation. Il tient, lui, en 20 mesures. Augmentation des pensions de retraite les plus basses, nouvel impôt pour les plus riches, renforcement de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, salaire minimum garanti, gel des tarifs de l'électricité et j'en passe. En bref, résume El Día de Coquimbo, tout l'inverse de l'orthodoxie néolibérale que les gouvernements successifs au Chili ont imposé depuis 30 ans à la population et que cette dernière dénonce dans la rue depuis 5 jours de manière spontanée, authentique et pacifique. Ce n'est pas moi qui le dis puisque c'est le président lui-même.
Pour autant, la crise sociale ne semble pas terminée au Chili.
Non, car comme vous le savez, la foule à travers tout le pays réclame le départ du président Piñera, sa démission, un véritable changement de cap politique et économique. D'ailleurs, El País America nous confirme que l'appel à la grève générale lancé par une alliance historique d'une vingtaine de syndicats chiliens est bien maintenu pour aujourd'hui et demain, malgré donc les concessions faites par le chef de l'État. Le mot d'ordre reste d'actualité puisqu'il s'agit du rappel des militaires déployés face aux manifestants et de la révocation de l'état d'urgence à laquelle Piñera s'est encore refusé hier soir.
Une question à présent, la Russie est-elle vraiment le nouvel arbitre, voire le nouveau gendarme de la planète?
Oui, c'est ce qu'on a l'air de penser, de nombreux géopoliticiens et éditorialistes ce matin dans la presse étrangère par rapport bien sûr à cet accord qui a été trouvé hier entre Vladimir Poutine et le Turc Recep Tayyip Erdogan sur le nord Syrie, avec ses patrouilles russo-turques qui vont se charger de pacifier, c'est en tout cas ce qu'on nous explique, la zone dont les Kurdes ont désormais été chassés. Poutine et la Russie en première ligne également sur les dossiers africains. Ça se passe aujourd'hui et demain à Sotchi avec le sommet Russie-Afrique qui va mettre en scène l'omniprésence incontournable des Russes désormais sur ce continent africain. Et ça tombe bien puisqu'il y a un nouveau conflit régional sur lequel Vladimir Poutine va pouvoir étrenner son costume de faiseur de paix. L'Égypte, nous dit l'agence d'État russe RIA Novosti, implore une médiation russe face à son voisin éthiopien et face surtout au chantier pharaonique du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, un barrage hydroélectrique en construction sur le cours supérieur du Nil bleu. Il alimente des tensions très vives entre Addis Abeba et le Caire, car les Égyptiens craignent qu'une fois la retenue d'eau mise en service prévue en 2021, ils craignent que les Éthiopiens ne contrôlent seuls le débit du grand fleuve sans se soucier des pays qui se trouvent en aval. Or, la BBC nous rappelle que l'Égypte, pays désertique, est extrêmement dépendante de l'eau du Nil pour irriguer ses cultures concentrées autour du fleuve et pour donner à boire tout simplement à la population. Et pourtant, 85% des eaux du même fleuve prennent leur source en Éthiopie, pays qui, grâce au barrage de la Renaissance, espère, lui, pouvoir enfin donner de l'électricité à sa population qui en est privée actuellement à 70%.
Et il faudrait donc que les deux voisins acceptent de discuter, de s'entendre pour gérer ensemble le cours de ce fleuve, Camille. Et c'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment.
Oui, et même on peut dire avec le Financial Times que la tension continue de monter entre les deux pays. L'Égypte exige d'avoir son mot à dire, notamment sur le remplissage du gigantesque réservoir du barrage qui va se faire en fermant les vannes et donc potentiellement en tarissant le fleuve en aval. Mais l'Éthiopie refuse toute implication égyptienne, accusant son voisin du Sud de vouloir tout simplement torpiller son chantier et par là même tout son développement économique. Et c'est là qu'intervient un personnage dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Il s'agit du premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed. Vous savez, il vient de recevoir le prix Nobel de la paix, entre autres pour avoir orchestré la réconciliation de son pays avec l'Érythrée. Mais sur le dossier du Grand Barrage, il est beaucoup moins conciliant. Aucune force ne nous empêchera de construire notre barrage, c'est ce qu'il dit à la BBC comme une menace à l'Égypte. En clair, s'il faut aller à l'affrontement, eh bien nous y irons. L'Académie Nobel appréciera. Aujourd'hui, donc, en tout cas, Abiy Ahmed et Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien, doivent se voir à Sotchi, en marge du sommet Russie-Afrique. Le Caire, on l'a dit, a demandé au Kremlin de jouer les médiateurs. Le sort de 245 millions d'habitants de la région du Nil en dépend, selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, cité par l'agence russe RIA Novosti. Voilà donc qui pourrait donner à Vladimir Poutine l'occasion de jouer les réconciliateurs et comme toujours de faire avancer ses intérêts dans la région. Ça tombe bien, note le quotidien économique Vesti à Moscou. Le président russe veut justement discuter avec l'Éthiopie du remboursement de sa dette. Il évoque un effacement pur et simple, à condition bien sûr que le pays africain renforce sa coopération économique avec la Russie. Et voilà qui au passage pourrait bien servir de monnaie d'échange pour faire entendre raison à l'Éthiopie sur la question du Grand Barrage.